Restez toujours au rythme du Niger sur Studio Kalangou, fidèles auditeurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de 18h, aujourd'hui 9 septembre 2020, Rukayat Abdrahmane pour vous tenir compagnie. À la une du journal, la station de production d'eau potable de Yantala à Niamey a arrêté la production d'eau potable pour cause d'inondation. Pas de rentrée à l'université Abdou Moumouni de Niamey, pourtant prévue en début de cette semaine. Les étudiants ont boycotté la reprise des cours pour cause d'inondation dans les salles de cours. Vous suivrez un reportage, la coupure de la route Niamey-Hamdallaï, inaccessible aux usagers depuis dimanche. C'est la partie magazine de ce soir. Depuis plusieurs jours, les populations sinistrées de la rive droite à Niamey font face à un problème d'approvisionnement en eau potable. Dans les quartiers, on retrouve des files d'attente composées de femmes et d'enfants munis de bidons de 25 litres, attendant des heures avant d'être servis, une situation que les femmes jugent insupportable. Elles témoignent au micro d'Olivier Assogbavi.
Wallahi, ça fait 3 jours que nous souffrons par manque d'eau. Nous sommes inondés par les eaux et l'eau courante des pompes s'est arrêtée. Ils n'ont qu'à faire en sorte qu'on puisse avoir, même si c'est de quoi boire. C'est une pompe, mais elle ne donne pas grand-chose.
Je suis ici depuis l'aube. J'ai pu remplir 4 bidons et il m'en reste quelques-uns. Le propriétaire de cette borne fontaine n'a augmenté aucun franc sur le prix d'avant. C'est toujours à 25 francs que nous prenons le bidon d'eau. Mais ce sont les revendeurs ambulants qui revendent les bidons d'eau à 100 francs CFA.
À Niamey, la station de production d'eau potable de Yantala a été inondée par les eaux du fleuve, occasionnant l'arrêt de la production. Cependant, le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en visite ce matin sur les lieux, a rassuré que l'alimentation en eau potable de la ville ne sera pas interrompue puisque la station de Goudel est encore fonctionnelle. Cheikh Boutankari, le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique, est au micro de Asmana China.
Particulièrement la station de Yantala, la production même a été arrêtée. Toutes les pompes et les armoires de commande étaient inondées, ce qui a fait que les techniciens de la SEN ont été obligés, en concertation avec la SPEN, d'arrêter la production d'eau au niveau de cette station. C'est une station qui donne 45 000 mètres cubes jour, donc qui permet d'alimenter un peu la population de la rive droite de Niamey. Ensuite, nous avons la station au niveau de la prise d'eau qui est complètement inondée. Là, on n'a même pas pu accéder. Mais heureusement que cette station, encore, elle est en fonction. Ce qui permet aussi de produire environ 100 à 110 000 mètres cubes jour au niveau de la station de Goudel. Et nous sommes en discussion avec la SPEN et la SEN pour voir dans quelle mesure on va poursuivre l'alimentation en eau potable de la ville de Niamey sans avoir de rupture.
Lundi 7 septembre dernier, il n'y a pas eu de rentrée académique à l'université Abdou Moumouni de Niamey comme annoncé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Néanmoins, le vice-recteur estime que tout est fin prêt pour la reprise, si ce n'est le boycott de 72 heures entamé le lundi même par les étudiants de Niamey. Professeur Cheibou Mamadou au micro de Michel Deji.
L'Union des étudiants de l'Université Abdou Moumouni a décrété un mot d'ordre de boycott de cours de 72 heures à partir de lundi. Et donc, s'il n'y a pas des étudiants, on ne peut pas faire cours. Mais sur le plan de la préparation, tout est prêt. Les emplois de temps ont été élaborés à temps. Les enseignants qui étaient au bac sont revenus. Et je pense que tout le monde est prêt pour reprendre l'année. Sachant que nous avons un challenge. Le challenge, c'est de finir le second semestre d'ici fin décembre pour que l'année 2020-2021 commence en janvier.
La question des inondations, est-ce que ça n'aura pas d'impact?
Non, non, puisque les classes ne sont pas inondées, il n'y a aucun problème. Sauf que les personnes qui sont dans cette situation-là, qui ont leur habitation inondée, eux, peut-être, ils vont prendre le temps de se reloger et tout va redevenir à la normale.
Pour sa part, l'UNUN estime que les conditions ne sont nullement réunies pour une reprise effective des cours à l'université de Niamey, puisque selon le secrétaire général de la structure estudiantine, la grande majorité des salles de cours a pris l'eau, d'où le mot d'ordre de 112 heures lancé le lundi, boycottant ainsi la reprise des cours. Albadé Omar, le secrétaire général de l'UNUN, au micro de Fanta Chamsou.
Rien que hier encore, on était même à la faculté des sciences de la santé pour enlever les matériaux de la boue parce qu'actuellement, l'amphithéâtre, 1000 places de la FSS est sous l'eau, sans compter les différentes salles de la pharmacie. Nous, on s'est dit que non, toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse avoir une reprise optimale. Voilà pourquoi nous avons lancé un mot d'ordre de 112 heures pour que le gouvernement puisse rapidement se saisir et réunir les conditions nécessaires afin qu'on puisse étudier. Pour quelles raisons nous, on va refuser? Mais il faut qu'on nous réunisse les conditions. On ne peut pas permettre à ceux qui puissent avoir une rentrée alors que certains de nos camarades ne peuvent pas aller dans leur salle de cours. Et on sait que déjà qu'à l'université, il y a une insuffisance des salles de cours. S'ils vont retransférer dans d'autres salles, qu'ils puissent expliquer clairement. Mais jusque-là, nous, on ne voit pas le sérieux qui est mis dans la gestion de cette situation.
Le service de la protection de l'enfant et de la promotion de la femme à Arlit, région d'Agadez, dans son bilan d'activité, a annoncé avoir accueilli et pris en charge 80 enfants en détresse de janvier 2020 à ce jour. Ces enfants sont composés de 52 garçons et 28 filles, selon le directeur du dit service, Kadri Hayatou. Il est au micro d'Ousmane Oumarou.
De 0 à moins de 18 ans, c'est ce genre de catégorie d'enfants que nous prenons en charge. L'appui psychosocial, le conseil aux parents, les soins d'urgence alimentaire et sanitaire et le retour en famille. Le deuxième volet s'intéresse uniquement aux enfants en situation de mobilité. Des enfants qui quittent toutes les contrées du Niger en provenance d'Arlit ou de l'intention de continuer sur l'Algérie ou sur la Libye. Et il y a également ceux qui sont rapatriés. Et le plus souvent, arrivés à Arlit qui, aujourd'hui, il faut le dire, est un carrefour, font face à des difficultés. De janvier à aujourd'hui, nous avons eu au total 80 enfants, dont 52 garçons et 28 filles. Pour des moins de 6 ans, nous avons eu 6 enfants. Dans l'intervalle 6-12 ans, nous avons eu 17 enfants. Dans l'intervalle 13-15, nous avons eu 22 enfants. Et inférieur à 18 ans, nous avons eu 35 enfants.
Une épidémie de choléra sévit dans certaines îles dans le bassin du lac Tchad et aurait tué plusieurs combattants de Boko Haram, a indiqué le journaliste Sidik Abba, spécialiste de la question de Boko Haram de la zone dans laquelle le dit mouvement opère depuis plusieurs années. Selon lui, au nom du droit humanitaire, une opération doit être coordonnée, pas dans l'intérêt de Boko Haram, mais dans le but de protéger les populations de la zone de l'épidémie en cours. Il est joint au téléphone par Tanan Foudé Ahmed.
Il y a eu quelques cas de choléra au début et puis la maladie s'est répandue sur plusieurs îles occupées par Boko Haram. Au début, il y avait quelques décès et puis le nombre de décès a augmenté. Aujourd'hui, on parle de plusieurs dizaines de décès dans le rang de Boko Haram sur les différentes îles qui sont occupées par le mouvement.
Monsieur Sidik Abba, est-ce qu'au nom du droit international humanitaire, ces combattants de Boko Haram méritent d'être pris en charge?
Vous savez, le droit humanitaire veut que toute personne, même celle qui a commis des pires crimes comme les gens de Boko Haram, soit prise en charge médicalement si c'était nécessaire que la prise en charge se fasse. Il faut réfléchir, à mon avis, à la possibilité d'organiser la maîtrise de cette maladie, parce que l'enjeu, ce n'est pas d'aider Boko Haram, mais c'est de maîtriser la maladie pour éviter qu'elle se répande dans des villages qui ne sont pas des villages qui sont sous le contrôle de Boko Haram.
Pour l'heure, aufcun cas de choléra n'a été enregistré à Difa, a déclaré le directeur régional de la santé publique que nous avons contacté aujourd'hui. La 57e session ordinaire de la CEDEAO tenue le 7 septembre dernier à Niamey a demandé aux militaires qui ont pris le pouvoir au Mali le 18 août 2020 de désigner un président civil d'ici le 15 septembre. Selon Boubacar Bakoum, analyste politique et membre du Centre d'études stratégiques du Mali, cette pression de la CEDEAO porte davantage préjudice au peuple malien qu'à la junte militaire au pouvoir. Il est joint au téléphone par Tanane Foudé.
On veut expérimenter une pression sur le Mali qui, en fait, n'est pas une pression sur la junte, mais une pression sur le peuple malien, ce qui est contraire à tous les principes édictés par la CEDEAO elle-même. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une posture où, pour soigner leur image, ils affament un peuple et que nous, aujourd'hui, dans l'analyse, nous pensons que la CEDEAO est dans l'illégalité et dans l'illégitimité. L'illégalité dans le fait que le droit international met la CEDEAO dans une posture pour défendre les intérêts du peuple. Quand ils sont venus au Mali, après 23 morts, qu'est-ce que la CEDEAO a eu à dire à Ibeka? Rien. Vous pensez que c'est légal, c'est légitime de la part de la CEDEAO de se mettre derrière Ibrahim Boubacar Keïta pour tuer son propre peuple? Je pense que la CEDEAO, elle est caduque, elle est dépassée.
Bonjour docteur.
Bonjour madame Traoré, comment puis-je vous aider?
Docteur, vraiment, je ne vais pas vous mentir, je suis un peu dépassée par les événements. Depuis que mon mari a été isolé suite à la Covid-19, je ne sais plus comment me comporter.
Ah madame Traoré, je comprends parfaitement ce que vous traversez. Ce n'est pas chose facile d'avoir un proche atteint de cette maladie.
En effet docteur, c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de vos conseils. C'est une nouvelle situation pour nous tous.
Je vais vous donner deux recommandations, sinon trois. Premièrement, ne laissez pas la peur vous dominer. La peur n'a pas sa place dans le combat contre la Covid-19. En deuxième lieu, votre mari est isolé en ce moment, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. C'est la première fois d'ailleurs que nous sommes autant séparés en 15 ans de mariage. Docteur.
Ce n'est pas grave. La situation oblige Madame Traoré. Apportez-lui tout votre soutien. Il a besoin de se sentir soutenu. Appelez-le tout le temps et rassurez-vous qu'il ne manque de rien. Nous devons soutenir tous nos malades, ceux qui sont isolés comme ceux qui sont en quarantaine en ce moment. Et troisième conseil, Madame Traoré, sensibilisez les gens autour de vous sur cette maladie. Que les gens continuent de respecter les gestes barrières.
Merci docteur, je pars de ce bureau rassuré. Merci pour vos conseils.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Et puis la partie magazine de cette édition, le tronçon reliant Niamey à Hamdallaye à environ 15 km de la capitale est coupé depuis le dimanche 6 septembre 2020. C'est suite aux fortes précipitations enregistrées ces derniers temps à Niamey, rendant inaccessible le passage pour les usagers de cette route. Toutefois, ces usagers de ce axe ont trouvé un moyen de continuer leur chemin. Les détails dans ce reportage de Adama Dawaki.
Nous sommes à Sagagoro, village situé à 15 km de Niamey sur la route de Filengue. Ici, voyageurs et transporteurs en partance pour Hamdallaye ou de retour sur Niamey sont tous bloqués. Pour cause, la voie reliant la capitale à ces localités a été coupée suite à la pluie du dimanche 6 septembre 2020. Pour que les voyageurs puissent arriver à leur destination, les chauffeurs de part et d'autre de la coupure échangent leurs passagers, nous explique Omar Modi, un transporteur trouvé sur place.
Quand le colis a débordé, si vous rentrez, l'eau vous arrive jusqu'à la hanche. Les véhicules qui viennent de Niamey s'arrêtent ici et ceux de Balayara de l'autre bord. Les passagers sont débarqués pour traverser. Nous sommes des pauvres. Si les frais de transport augmentent, c'est un autre cas.
Si certaines personnes arrivent à traverser d'elles-mêmes, d'autres font appel à des guides comme ces deux voyageurs en provenance de Balayara.
J'ai réussi à traverser. C'est parce que je maîtrise cette voie. Je suis un habitué de la route Niamey-Balayara.
Quand j'ai traversé, le courant était fort. Il aurait pu m'emporter. Nous avons besoin d'aide. Le niveau de l'eau, c'est jusqu'à mon cou. C'est un danger de mort, ça. Les personnes âgées et les enfants en souffrent beaucoup. C'est les hommes qui nous font traverser.
Ouvrier dans une carrière de la place, Ibrahim Oumarou est converti en guide passeur, une activité qui lui apporte un plus pour subvenir à ses besoins.
Avant, je travaillais dans une carrière. Quand l'eau est venue, l'endroit est inondé. Alors, je suis venu ici pour aider les gens à traverser. Si quelqu'un vient et qu'il n'a pas d'enfant avec lui ou des bagages, je prends 250. S'il a des bagages, je prends 500. Si la personne dit qu'elle n'a rien, là je l'aide au nom de Dieu.
Cette coupure de la voie Niamey-Hamdallaye est la deuxième du genre. En 2017, le mini-pont situé sur ce même axe avait cédé, rendant inaccessible la route pendant toute la saison pluvieuse, comme dirait un adage nigérien, Harzul Sing Fondata. Autrement dit, un cours d'eau suit toujours sa trajectoire.
Gestion de la réserve naturelle nationale du Termite et de Tintuma, force, faiblesse et perspective pour une meilleure gouvernance est le thème du forum d'aujourd'hui avec Mustapha Mamansani. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de réception.
Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangou sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada.
Et studio Kalangou au rythme du Niger.